en parler aux autres, pourquoi, comment. C'est bien de chanter « Toi, lève-toi, va au nom du Christ porter l'amour de Dieu au monde ». Cette notion d'aller de l'avant, manifester ou parler de Dieu au monde. Alors, il y a des pays dans lesquels, et des cultures également, dans lesquelles il est très facile de parler de sa foi. Et puis, il y a la France. En France, en revanche, la foi est souvent considérée comme quelque chose qui concerne strictement la vie privée. Alors, faut-il parler de notre foi en Jésus aux autres? Eh bien, voilà trois bonnes raisons de parler de Jésus aux autres. La première de ces raisons, c'est déjà que c'est Jésus lui-même qui nous demande de le faire. Et si jamais nous avons placé notre confiance en Jésus, si nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur, alors il est normal que nous fassions ce que Jésus nous demande. Dans votre fascicule, il est mentionné Jean 20-21, mais comme ce verset s'adresse spécifiquement aux apôtres qui ont suivi Jésus, moi je préfère vous citer ces paroles de Jésus en Matthieu 28, 19 et 20, qui s'adresse à tous les disciples de Jésus de tous les temps jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19 et 20. Et Jésus dit ceci, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La mission d'un disciple de Jésus, c'est de transmettre ce qu'il connaît de Jésus en espérant que cela aidera une autre personne à devenir à son tour disciple de Christ. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous faire peur. Mais si jamais nous avons bien compris ce qu'est la foi chrétienne, une bonne partie de nos peurs peuvent alors s'estomper. Parce que le message dont nous sommes porteurs, le message que nous avons à communiquer, est avant tout une bonne nouvelle. Vous en souvenez, hein, le mot évangile est un mot grec qui signifie « bonne nouvelle ». Eh bien, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et avez-vous remarqué comme les gens aiment annoncer aux autres ce qui était une bonne nouvelle pour eux? Voilà, quand quelqu'un est un passionné de foot, même si les gens qui sont devant lui ne sont pas passionnés de foot, eh bien, il a cœur de dire que son équipe a gagné. Lorsqu'un ami tombe amoureux, il a à cœur de nous dire qu'il a rencontré quelqu'un. Lorsque nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle, nous avons envie de l'annoncer aux autres. Eh bien, la foi en Jésus est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui annonce que notre salut ne dépend pas de ce que nous avons fait pour Dieu, mais dépend de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et ça signifie que, quel que soit l'histoire, le passé de la personne que nous avons en face de nous, quel que soit son passé, sa situation, si jamais elle reconnaît Jésus comme son Seigneur et Sauveur, elle peut commencer une nouvelle vie en communion avec Dieu. Quel soulagement, quelle bonne nouvelle! Si on comprend bien ce qu'est l'Évangile, comment ne pas partager aux autres cette bonne nouvelle? Et non seulement l'Évangile est une bonne nouvelle, mais c'est également la nouvelle que le monde entier a besoin d'entendre. Les gens ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Éphésiens 1.13, la référence n'est pas sur vos fascicules, mais Éphésiens 1.13 dit ceci, « En lui, et il s'agit de Jésus, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » C'est parce que nous avons entendu la bonne nouvelle en Jésus-Christ que nous avons cru en lui, reçu le Saint-Esprit et la vie éternelle. Et parce que bien des gens sont dans l'ignorance, et sont séparés de Dieu, ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Non seulement ils en ont besoin, mais aussi beaucoup d'entre eux aimeraient entendre parler de Jésus avec amour et vérité. Parce que beaucoup de gens éprouvent un grand vide intérieur, et puis aussi parce que de nombreuses personnes ont une idée complètement fausse, ou un peu fausse, de ce qu'est la foi, et de ce qu'est la foi en Jésus en particulier. Et ces personnes ont besoin d'entendre parler de qui est Jésus et quelle est cette foi qui nous unit à lui. Et aussi, de nombreuses personnes ont soif, mais elles ne savent pas où trouver à boire. C'est un peu comme si elles se trouvaient dans un désert, dans le Sahara, sans eau. Et puis, parmi les gens de cette caravane, il y en a un qui découvre de l'eau, une source. Est-ce qu'il va rester silencieux ? Non. Il va aller annoncer aux autres, j'ai trouvé de l'eau. En faisant cela, il ne contraint personne. Mais il offre seulement une opportunité à ceux qui ont soif de trouver à boire. Eh bien ça, c'est ce que nous faisons lorsque nous parlons de Jésus. Il y a peut-être des gens qui ont soif. Et lorsque nous témoignons de ce que nous savons sur Jésus, eh bien ces personnes peuvent se dire, mais j'ai soif et j'aimerais pouvoir trouver à boire. Simplement, on leur indique où leur soif peut être étanchée. Alors parfois, il y a des voix qui s'élèvent et qui disent, mais attention, il ne faut pas faire de prosélytisme. Mais les chrétiens ne recrutent pas comme le ferait une secte ou un parti politique. Ils ne font qu'indiquer leur source d'eau pure, une eau pure et inépuisable qu'ils ont découverte. Après, les gens sont totalement libres d'aller s'abreuver ou de ne pas y aller. On ne peut contraindre personne à croire en Jésus. C'est un non-sens de contraindre quelqu'un. Mais pour que quelqu'un puisse venir à Jésus, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, il entende parler de lui. Et pour cela, pour pouvoir parler de lui, nous devons veiller à ne pas tomber dans les deux pièges suivants. Le manque de délicatesse et la timidité. Le manque de délicatesse. Nous ne pouvons pas dire les choses n'importe comment sans tenir compte de la personne à qui nous parlons, de son histoire, de ses difficultés, de ses croyances, de sa souffrance. Voilà, l'idée, c'est pas on balance les choses comme ça. Non, on est dans une communication et nous lui parlons de ce que nous savons en tenant compte de sa sensibilité. On ne peut pas non plus rester sans rien dire à personne. Parce que si jamais nous sommes détenteurs d'un message important qui peut sauver des vies, alors nous devons faire entendre ce message. C'est pour cela que l'amour pour notre prochain est une des conditions nécessaires à l'annonce de l'Évangile. C'est notre amour pour l'autre qui nous pousse à surmonter notre crainte. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, mais notre amour pour l'autre nous pousse à parler de Jésus. Et c'est également notre amour pour lui qui nous amène à le dire avec délicatesse, en tenant compte de ce qu'il est. Et si jamais ce n'est pas l'amour qui nous pousse à parler de Jésus, alors il vaut mieux ne rien dire. Parce que déjà nous serons un mauvais témoin, si nous ne sommes pas habités par l'amour, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre relation avec Dieu. Donc il vaut mieux nous taire, et puis en plus nos motivations ne seraient pas bonnes, si ce n'est pas l'amour qui nous pousse. Mais si nous avons cet amour pour quelqu'un, alors, partageons simplement cette bonne nouvelle. Mais comment la partager ? Les 5 points suivants peuvent nous aider. 5 points comme 5 pistes qui commencent toutes par la lettre P, afin de nous aider à nous en souvenir. Tout d'abord, la présence, notre présence dans ce monde. Et puisque vous avez déjà vos Bibles, je vous invite à l'ouvrir dans l'évangile de Matthieu. Pour les Bibles blanches, c'est à la page 619, Évangile de Matthieu au chapitre 5, page 619. Matthieu 5, et je lirai les versets 13 à 16. Et c'est Jésus qui parle. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Par notre présence dans le monde, nous pouvons témoigner que Jésus est vivant et agissant. Par nos vies, nous devons agir comme le sel de la terre et être la lumière du monde. Alors, à l'époque et dans le lieu où ce texte a été écrit, le sel était utilisé pour conserver les aliments afin qu'ils ne s'abîment pas. Eh bien, par notre présence dans ce monde, nous devons agir un peu comme le ferait ce sel. Par nos paroles, par nos actions, par nos choix de vie, nous devons contribuer à ce que ce monde ne s'abîme pas. Parce que oui, ce monde, livré à lui-même, s'abîme. Quand on considère ce monde dans lequel nous vivons, tout être humain, quel qu'il soit, homme, femme, quelle que soit son origine, a été créé en image de Dieu avec la même dignité. Dans sa bonté, Dieu nous a donné de vivre sur une planète où il y a suffisamment de place pour tout le monde et suffisamment de ressources pour que tout le monde puisse vivre et manger à sa faim. Mais que constatons-nous ? Que dans ce monde merveilleux, il y a des guerres, des famines, des pauvres. Les plus faibles sont, quelle que soit l'époque et le lieu, sont exploités, violés, dépouillés, tués par les plus forts. Eh bien, chaque disciple de Jésus, par sa présence dans le monde, par sa vie, est appelé à œuvrer pour la justice et la paix, à tendre la main à ceux qui souffrent. Alors, des fois, on peut se dire, oui, mais ça ne sert à rien. Écoutez cette petite histoire. C'est un homme qui marche le long d'une plage. Et sur cette plage, comme à certains endroits, il y a des milliers d'étoiles de mer qui sont échouées. Et puis, elles sont là, et puis une étoile de mer qui est échouée, et qu'elle fait quoi ? Elle est au soleil, elle se dessèche, et elle meurt. Et puis là, il voit un petit garçon qui ramasse une étoile de mer, et puis qui la jette dans la mer, justement. Et puis, une autre, et encore une autre. Alors, cet homme vient vers lui, il lui dit, mais... Regarde, il y a des milliers et des milliers d'étoiles de mer. Est-ce que tu crois que ça va faire une différence ? Et puis le petit garçon, il ramasse encore une étoile de mer, il la remet à l'eau et il dit, eh bien pour celle-ci, ça fera une différence. Chacun de nous n'a pas les moyens de mettre toutes les étoiles de mer à la mer, mais a souvent l'occasion, au moins, de remettre une de ces étoiles à la mer. Et lorsque nous agissons ainsi, eh bien nous faisons bien sûr du bien à quelqu'un, à la personne qui va en profiter, mais nous témoignons aussi par notre vie que Jésus est vivant et agissant en nous. L'autre image qui est utilisée, c'est celle de la lumière. Alors ce n'est pas la lumière que nous produisons nous-mêmes, mais c'est seulement le reflet de la présence de Christ en nous. Notre appartenance à Jésus transforme nos vies et cela se voit, cela est visible par les autres, surtout lorsqu'ils nous connaissent bien. Parce que, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on est parfait du jour au lendemain, mais lorsque quelqu'un nous connaît et lorsque nous avons rencontré Jésus, petit à petit, il voit un certain nombre de changements. C'est comme s'il voyait cette lumière de Christ qui se reflète en nous. Eh bien, à de nombreux endroits dans la Bible, il est écrit que ce qui va amener à des personnes à se tourner vers Dieu, c'est qu'ils vont être interpellés par la vie des disciples de Jésus et en particulier vont être interpellés par leur amour pour elle. Notre premier témoignage, c'est celui de notre vie. Et c'est le témoignage de notre vie qui va nous permettre, si l'occasion se présente, de donner du poids au témoignage de nos mots. Le point suivant, c'est la persuasion, notre témoignage par les mots. Avant de croire en Jésus, les gens ont besoin d'être persuadés qu'ils ont raison de croire en lui. Et c'est tout à fait normal d'avoir besoin d'être persuadé, parce que de nombreuses personnes ont des préjugés et des croyances fausses, erronées sur Jésus ou la foi chrétienne. Eh bien, la persuasion consiste à répondre aux objections qu'une personne peut avoir. Et dans ces discussions-là, nous ne faisons que répondre aux questions que se pose notre interlocuteur. Alors, attention, hein, ce n'est pas nous qui aurons la capacité de les persuader de croire en Jésus. Ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Mais peut-être que le Saint-Esprit veut passer par nous pour persuader ces personnes de s'approcher de Jésus et de croire en lui. Et ce qu'il nous demande à nous, c'est simplement de dire ce que nous croyons. Il est important de ne dire que ce que nous savons être vrai. Parce que si nous-mêmes, nous ne sommes pas persuadés de ce que nous disons, c'est peut-être tout simplement parce que c'est faux. Or, la foi en Jésus se fonde sur la vérité et jamais sur le mensonge. C'est important pour la valeur et l'authenticité de notre témoignage chrétien que nous ne disions que ce que nous savons être vrai. Et ça signifie que nous ne serons pas toujours en mesure de répondre à certaines objections. Et je pense en particulier à ces objections qui concernent l'existence du mal. Pourquoi est-ce que Dieu a permis cela ? Nous devons être prêts à reconnaître que nous n'avons pas de réponse à tout. Parce que Dieu nous dépasse et parce que son plan nous dépasse. Alors, si cela peut vous mettre à l'aise, hein, et que quelqu'un un jour vous dit « mais il y a quelque chose qui ne colle pas sur ce que dit la Bible ou sur ce que je crois sur Dieu » et que vous ne savez pas que répondre, vous n'avez qu'à simplement leur dire « oui, mais moi je connais un pasteur qui ne connaît pas tout ». Donc, voilà, si vous dites ça, vous non plus, vous ne serez pas obligé d'avoir réponse à tout. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas réponse à tout que nous sommes ignorants de tout. Et ce que nous savons sur Dieu, ça, c'est quelque chose que nous pouvons dire. Et parfois, il suffit d'un mot pour que quelqu'un se laisse persuader de venir à Jésus grâce à la puissance du Saint-Esprit. Le troisième P, c'est la proclamation. Alors, dans la proclamation, nous ne cherchons pas à répondre à des objections, mais nous parlons de notre foi en Jésus. C'est comme une sorte d'invitation que nous adressons aux autres. J'ai rencontré Jésus et je t'invite à le rencontrer aussi. Venez et voyez qui est Jésus. Voilà notre proclamation, pour faire simple. Jésus, pour nous attirer à lui, a dit ça de lui-même. Venez et voyez. Jean 1, 39. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où ils habitaient et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. Après, le texte continue. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient suivi Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait, André ? Il va trouver son frère. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus a invité André à le suivre et André, qui venait juste de rencontrer Jésus, en a parlé à Pierre, qui lui aussi va se mettre à suivre Jésus. Pas besoin de connaître Jésus depuis longtemps, pas besoin de tout savoir sur lui pour inviter d'autres personnes à venir à lui. Très souvent, nous venons à la foi parce que quelqu'un d'autre a proclamé sa foi personnelle en Jésus. La proclamation personnelle de notre foi va peut-être donner envie à quelqu'un d'autre de venir à Jésus. Alors, dans notre pays, dans notre culture, il n'est pas toujours bien vu de parler de notre foi. Ça, c'est vrai. Mais par contre, il est tout à fait accepté qu'une personne vive une passion quelle qu'elle soit, même si toute sa vie tourne autour de cette passion. Ça, c'est quelque chose qui est bien accepté. C'est sa liberté, et plus elle assume son choix au grand jour, plus cette liberté est perçue de façon positive, même par ceux qui ne partagent pas cette même passion. Ça, c'est curieux. Plus on est clair dans ce qu'on croit, plus c'est des choses que les gens acceptent et tolèrent. Eh bien, nous, notre passion, c'est Jésus. On a le droit d'avoir cette passion-là. Certains, c'est, je sais pas, les soldats de plomb. Nous, c'est Jésus. Et notre liberté, c'est de croire en lui. Une liberté que les autres nous reconnaissent. Et plus nous assumons ouvertement cela, mieux cela est perçu autour de nous. Parce qu'en fait, non seulement c'est comme cela que les personnes prennent conscience que nous vivons quelque chose de grand, de beau, de fort, qui a transformé notre vie et qui lui a donné un sens, mais en plus, souvent ça donne envie à ces personnes de vivre quelque chose d'aussi grand et de si beau. C'est pour ça que les gens qui ont des passions et qui osent les mettre en avant sont souvent mieux acceptés que des gens qui sont presque timides dans ce qu'ils affirment. Juste une petite question, j'aimerais savoir, aussi parmi les gens de l'Église, hein, savoir ceux qui ont fait un pas en direction de Jésus parce qu'un jour, quelqu'un qu'ils ont rencontré leur a proclamé leur foi personnelle en Jésus. Quels sont ceux qui ont eu ce cheminement-là? Un jour, ils ont rencontré quelqu'un et ça a été dans leur cheminement quelque chose de décisif. Regardez un tour, parce que voilà, moi je vois bien, mais eh bien n'empêche, ça signifie que un témoignage personnel de ce qu'une personne vit peut avoir un impact déterminant dans le cheminement d'autres personnes. Et cela pourquoi? Grâce au quatrième P, P comme puissance. Alors pas votre puissance, mais celle du Saint-Esprit. Je vous donne un petit témoignage personnel. Hein. J'ai passé pas mal d'heures étalées sur plusieurs semaines à montrer à quelqu'un ce que la Bible enseignait sur un sujet donné. Puis mon objectif était bien sûr que cette personne mette en pratique cela dans sa vie. Et puis les semaines passaient et rien ne bougeait. Et puis un jour, la personne vient me voir et puis elle me dit « Voilà ce que j'ai décidé de faire ». Et c'était tout à fait ce que la parole de Dieu enseignait. Alors moi, j'étais content pour elle, et puis j'ai été aussi content pour moi. Et je me disais, mes arguments, on finit par la convaincre. Et puis un jour, comme ça, plus tard, dans une discussion, elle partage ce qu'il avait décidé à prendre cette décision. Et en fait, c'était pas ce que j'avais dit. C'était le témoignage personnel d'une personne qui avait vécu une situation un peu similaire à la sienne, et puis qui avait pris, au bout du compte, une certaine décision. C'est le Saint-Esprit qui avait convaincu cette personne à partir d'un témoignage personnel. Alors ce jour-là, le Seigneur, merci Seigneur, m'a donné une leçon d'humilité, mais il m'a aussi montré à quel point des fois, trois fois rien. Lorsque Dieu, par son Saint-Esprit, veut toucher quelqu'un, des fois par trois fois rien, un mot, une attitude, eh bien, il peut faire un levier à partir de ça pour transformer la vie d'une personne. Nous devons compter sur la présence et la puissance du Saint-Esprit pour agir, toucher les cœurs, convaincre, transformer des vies. Pas sur notre puissance, il faut nous lever de ce poids-là. Comme nous ne pouvons convaincre personne, il faut arrêter de nous dire que c'est notre faute. Simplement, nous pouvons témoigner et compter sur la puissance de l'Esprit de Dieu pour convaincre. Et c'est parce que c'est Dieu qui agit que le cinquième P a tout son sens. P comme prière. La prière est essentielle dans notre annonce de l'Évangile. Nous devons d'abord prier pour nous, déjà, afin que notre témoignage de vie prépare notre témoignage verbal. Moi, j'avais un ami, hein, très cher, qui était très, très, très fort sur le témoignage verbal. Mais, par sa vie, son témoignage n'était pas pris au sérieux. Parce que, voilà, il mettait tout sur ce qu'il disait par sa bouche. Or, ce qui touche souvent les gens, ce n'est pas simplement ce qu'ils entendent, c'est ce qu'ils voient. Eh bien, nous pouvons prier pour que, déjà par notre vie, nous témoignions de Jésus, de ce que nous connaissons de Jésus, de ce que Jésus fait en nous. Et puis, nous devons également prier pour nous, pour que Dieu, des fois, nous donne l'audace de saisir les opportunités qu'il nous donne de témoigner de notre foi. Il ne s'agit pas de brusquer les choses, mais des fois, on a des opportunités. Eh bien, des fois, c'est formidable d'oser saisir une opportunité. Je dis ça pour moi aussi, hein, quand je dis ça, ce n'est pas juste « vous devez prier pour vous ». Moi, je me rends compte que des fois, je suis dans des discussions comme ça et ma prière, c'est « mais Seigneur, fais qu'il y ait une opportunité de parler de toi ». Et des fois, cette opportunité se présente, eh bien, nous pouvons la saisir à ce moment-là. Et puis, bien sûr, nous devons également prier afin que Dieu mette dans le cœur de ceux qui nous entourent le désir sincère de rechercher Dieu. Prier pour que Dieu touche leur cœur, ouvre leur intelligence et puis se révèle à eux. Parce que ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Comme conclusion, le verset tiré de Romains 1,16, et je vous invite également à le trouver dans vos Bibles, Romains 1,16, page 732, dans les Bibles blanches. Romains 16 peut nous servir de conclusion. Voilà ce que dit Paul, l'apôtre Paul. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Ce qui était pour lui l'occasion de dire, pour ceux qui étaient déjà le peuple de la Bible, qui avait déjà l'Ancien Testament, mais aussi pour les non-juifs, c'était pour toute autre personne, quelle que soit sa culture. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Nous n'avons pas à avoir honte de l'évangile parce que c'est une bonne nouvelle que nous annonçons au monde. Nous sommes peut-être petits et faibles, mais qui est Dieu ? Dieu est puissant. Et nos simples mots de témoignage, portés par le Saint-Esprit, peuvent agir puissamment, même là où nous ne l'imaginons pas. Et grâce à cela, des vies peuvent être transformées et des personnes qui se trouvaient loin de Dieu peuvent être amenées à se réconcilier avec lui et recevoir ainsi la vie éternelle. Alors, tout le monde, bien sûr, ne viendra pas à Christ suite à notre témoignage. Mais si, imaginez, si ne serait-ce qu'une seule personne dans toute une vie de témoignage, se réconcilie avec Dieu par Jésus. Eh bien, vous pourrez vous dire que le Seigneur se sera sauvé de votre vie pour sauver une autre vie sur cette terre. Et une vie, rien qu'une vie, c'est déjà quelque chose qui a une valeur inestimable. Inestimable. Alors cela vaut la peine de saisir les opportunités que le Seigneur nous offre pour parler de lui, mais cela vaut également la peine de persévérer dans notre témoignage.